Aujourd'hui, nous serons dans un livre du Nouveau Testament, je vais vous le dire dans un instant. Mais je veux vous dire aussi qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer une étude, une série de découvertes dans le livre l'Épître aux Romains. Le livre, cette lettre de Paul aux Romains, donc ça va être pour la semaine prochaine. Alors, prenez le temps cette semaine de lire les quelques premiers chapitres de cette lettre aux Romains. Alors, épître, ça veut dire tout simplement lettre, un terme qu'on a gardé. Et voilà, mais tout simplement lettre, et la lettre aux Romains, c'est le sixième livre du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Acte, Romain. Et du coup, préparons-nous pour cela. Ça va être à partir de la semaine prochaine et on va prendre plusieurs mois, peut-être jusqu'à la fin de l'année, selon comment ça se passe, pour examiner ensemble, faire une découverte dans le livre aux Romains. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas là où nous irons. Ce matin, je souhaite attirer votre attention sur l'épître de Jacques. L'épître de Jacques. Je vous laisse quelques instants pour trouver ce livre. L'épître de Jacques, la lettre de Jacques, juste avant les deux lettres de Pierre. Le livre de Jacques. Et ce sont les huit premiers versets qui vont nous intéresser ce matin. Mais avant de lire ces versets et avant de prier, j'aimerais dire que Jacques, il est vraiment quelqu'un qui va droit au but. C'est quelqu'un qui cible bien des choses pratiques, des choses pour notre vie aujourd'hui, et surtout pour les gens de son époque. C'est quelqu'un qui n'avait pas du tout peur de reprendre très sévèrement les enfants de Dieu. Et lorsque nous lisons le livre de Jacques, on est parfois gêné, ou du moins, moi je le suis, je ne sais pas si vous l'êtes, mais moi je le suis, par les termes qu'il emploie. Il va aller presque à l'insulte, bien que ce ne sont pas des insultes, ce sont des réalités, lorsqu'il reprend les enfants de Dieu auxquels il écrivait. Et donc, lorsque nous lisons ce livre, il faut s'attendre à ce que Dieu, par sa parole, nous reprenne aussi. Mais aussi qu'il nous montre des choses, qu'il ne nous laisse pas en suspens, mais il nous reprend, mais aussi il nous montre ce que nous devons faire. Et c'est ce que nous allons voir ce matin à travers les quelques premiers versets du chapitre 1. Si vous êtes avec moi, Jacques, chapitre 1, ce sera les huit premiers versets. Donc, du verset 1 jusqu'au verset 8. Suivez avec moi, je vais les lire. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors, prions pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, nous savons que tu es avec nous, tu vois tout, tu entends tout, tu connais tout. tu as déjà préparé ces moments et nous demandons à ce que tu prépares notre cœur, que nous soyons réceptifs à ta parole, que cette parole puissante puisse agir dans notre cœur, dans notre vie, qu'il soit évident que c'est toi qui le fais, Seigneur, et ainsi que tu puisses recevoir toute l'honneur et toute la gloire. En ton nom. Amen. Alors, à travers ces quelques versets, Jacques va quand même dire beaucoup de choses. Et certaines choses qui peuvent sembler étonnantes. Je pense, dans un sens, certains de ces versets sont assez connus de nous si nous connaissons la Bible, si nous connaissons le Seigneur depuis un certain temps. Et pourtant, c'est bien d'être rappelé, c'est bien de nouveau d'être confronté avec la vérité de la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Surtout dans le contexte dans lequel nous sommes, avec cette crise, avec ces circonstances tellement particulières dans lesquelles nous sommes. Et du coup, au verset 1, si nous y revenons, Jacques, il va écrire spécifiquement à ses frères, ses compatriotes, on peut dire, des Juifs, puisqu'il dit aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Alors, à l'époque de Jacques, qui était peut-être un des premiers livres du Nouveau Testament à être écrit, donc écrit assez tôt, selon ce qu'on peut savoir. Alors, Jacques, il va écrire à ces chrétiens juifs qui sont dispersés à cause de la persécution. Ces juifs ne se sont pas dispersés parce qu'ils se sont dit, tiens, on va trouver quelque chose de mieux ailleurs. Finalement, ces chrétiens étaient dispersés parce qu'ils étaient persécutés. Il y a un peu de débat concernant la persécution exacte dans le contexte ici. Jacques, il ne s'occupe pas de ça. Il dit tout simplement, vous êtes dispersés, vous êtes un peu partout et je vous écris. Parce que vous avez besoin de savoir certaines choses ou même d'être rappelé certaines choses. Et même si nous ne sommes pas juifs aujourd'hui, bien sûr, nous faisons quand même partie de la famille de Dieu si nous sommes enfants de Dieu. Si nous avons accepté Christ comme notre sauveur, nous sommes sauvés, nous faisons partie de la famille de Dieu. Et en ce moment, nous sommes dispersés dans un sens. Nous sommes loin des uns des autres, nous sommes un peu partout, nous ne pouvons pas nous réunir. Et du coup, c'est comme si Jacques écrit un tout petit peu, alors je ne veux pas pousser cette image et cette application trop loin, mais c'est un peu comme si Jacques nous écrit également, parce que nous sommes aussi un peu dans la dispersion. Et c'est là verset 2. Alors, je n'en reviens pas à chaque fois que je lis ce verset. Mes frères, donc il identifie au verset 1, ce sont les 12 tribus, ce sont les Juifs auxquels il écrit, très bien, il s'identifie à eux, mes frères, et dans ce passage et dans ce livre, on va voir que quand Jacques il va employer ce terme, mes frères, il parle à des chrétiens, il parle à des gens qui connaissent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Il dit, regardez comme un sujet de joie complète. Et jusque-là, ça va. Alors, si nous connaissons le verset, et bien sûr, je l'ai lu tout à l'heure, donc on sait ce qui vient, mais jusque-là, ça va. Regardez comme un sujet de joie complète. Là, gloire à Dieu. Amen. Un sujet de joie complète. Quoi? Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez exposer. Toutes sortes d'épreuves. Peu importe. Jacques ne dit pas « Ah, considérez cette épreuve-là comme bien, mais cette épreuve-là comme pas bien. » Considérez telle ou telle épreuve physique ou financière ou morale ou spirituelle même comme un sujet de joie complète, mais ces épreuves ici, dans ce domaine, considérez ça comme quelque chose de mal, considérez ça comme quelque chose en dehors du plan de Dieu ou que sais-je encore. Jacques est en train de dire ici, pour ses frères et sœurs en Christ, regardez, constatez, mais aussi appropriez, c'est pas juste un regard où on regarde vite fait et puis on passe à autre chose. Non, regardez comme un sujet de joie complète, entière, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Alors, les épreuves de toutes les couleurs, c'est littéralement ce qu'il dit, les épreuves diverses et variées. Et nous lisons cela. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, je suis convaincu, c'est difficile de lire ça. Vraiment, Dieu veut qu'on regarde nos épreuves, les choses difficiles par lesquelles nous passons comme un sujet de joie complète. Non, mais c'est pas aller un peu trop loin. Et encore plus, les inconvertis. Imaginez-vous quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui lit ceci. Il va dire, mais vous êtes malade, vous. Vous n'êtes pas bien. Vous réjouir, remercier Dieu pour les épreuves qu'il permet. Non, mais vous n'êtes pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Et pourtant, nous savons que ce que Dieu dit dans sa parole est pour nous. Et c'est quelque chose qui vient de sa part. Donc, il veut qu'on le fasse. Alors, regardez. Finalement, c'est un commandement. C'est quelque chose que nous devons faire et quelque chose que nous devons faire continuellement. Pourquoi? Parce que les épreuves viennent continuellement. Nous aurons toujours et encore de nouvelles épreuves. Certaines seront petites. Ça va être quelque chose qui nous éprouve un peu par ceci, par-ci, un peu par-là. Ça peut être des épreuves assez énormes. Perte d'emploi, perte de salaire qui est une réalité sûrement pour beaucoup en ce moment. Même si l'État s'engage en ce moment de prendre soin et de mettre en place un ensemble de mesures, il y aura certainement des conséquences économiques des conséquences financières suite à cette crise. Il y a des épreuves physiques. On peut tomber très malade, on peut être même au seuil de la mort, tout comme on peut avoir un petit rhume ou lutter avec des allergies, surtout en ce moment, on est le printemps, les fleurs commencent à s'ouvrir, les arbres tout cela, il y a la pollen dans l'air. Et du coup, on est éprouvé physiquement, financièrement. On est éprouvé moralement parce que nous sommes privés du contact réel les uns avec les autres. Et Jacques dit ici, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et quelqu'un peut dire, moi je peux dire, même peut-être certains d'entre vous peuvent dire « Oui, mais Jacques ne savait pas que cette pandémie allait venir. » Du coup, c'est quelque chose de tellement inhabituel, exceptionnel, que peut-être on peut avoir une exception ici. On regarde tout le reste comme un sujet de joie complète, mais bon, cette pandémie, cette crise par laquelle nous passons, elle est tellement exceptionnelle qu'elle sort de ce cadre-là. Et il faut rejeter ce raisonnement. Pourquoi? Parce que Dieu a dirigé Jacques à écrire ceci. Et Dieu savait très bien que dans l'année 2020, cette pandémie allait arriver. Et Dieu savait très bien que nous, particulièrement, vous et moi, nous serions dans ces circonstances. Et il savait ça lorsque Jacques, il y a 2000 ans, il a écrit ce livre. Et Dieu, quand même, a poussé Jacques à dire, regardez, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves. Toutes, peu importe, il n'y a pas d'exception. Un sujet de joie complète. Mais quelqu'un pourrait Et moi-même, je peux poser cette question, et peut-être vous, vous la posez aussi, mais pourquoi ? L'épreuve, ça fait mal. L'épreuve, ça me prive de certaines choses. L'épreuve me déstabilise. L'épreuve ne semble pas comme une bonne chose. L'épreuve semble comme une chose à éviter à tout prix, ou bien quelque chose de laquelle il faut sortir, duquel il faut sortir le plus rapidement possible. OK, on traverse une épreuve, mais on cherche à en sortir le plus rapidement possible. Alors, pourquoi se réjouir ou regarder comme un sujet de joie complète l'épreuve? L'épreuve, à notre réflexion, semble comme quelque chose à éviter. Du coup, pourquoi regarder toute épreuve, quelle qu'elle soit, comme un sujet de joie complète? Verset 3 commence à nous donner la réponse. Sachant, alors en connaissant, en ayant appris, en nous souvenant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et ici, plusieurs éléments. L'épreuve de notre foi. Si nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire qu'à un moment donné, nous avons placé notre foi, notre confiance en Jésus-Christ pour le salut. Et ça, c'est arrivé à un moment. On n'a pas besoin de renouveler cela parce que c'est une fois pour toutes. En même temps, ça fait de nous des enfants de foi. C'est-à-dire que nous devons manifester ou exercer cette foi continuellement. Non pas la foi qui sauve, parce que ça, une fois, et c'est bon. Mon salut ne dépend pas de la continuité de ma foi. Mon salut dépend de la grâce de Dieu. Et elle est infinie, elle est toute puissante, donc je suis en sécurité. En même temps, ma vie de tous les jours, la confiance que je manifeste en Dieu, cette foi-là doit continuer d'augmenter, doit continuer persister, persévérer. Et Jacques dit ici, c'est grâce à l'épreuve que notre foi va produire quelque chose. Notre foi, cette épreuve qui éprouve, notre foi va produire la patience. Alors, j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs récemment, ces dernières semaines, et quelque chose qui revenait de temps en temps, c'est des personnes qui disaient bah, « j'ai besoin de la patience ». Et même, j'en ai rigolé avec certains en disant « oui, parfois, on a cette impression, vite, Dieu, donne-moi la patience tout de suite ». Et bien sûr, la patience, c'est la persévérance, c'est la continuité dans le temps. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons exercer, nous devons avoir la patience. Mais comment avoir la patience? Comment produire cela en nous? Ou du moins, comment laisser Dieu nous donner plus de patience? Ça passe au moins en partie, dit Jacques, par l'épreuve. Parce que l'épreuve va tester, va mettre en avant notre foi. Et soit le résultat sera bien, et on dira « ma foi a tenu » et « j'ai vraiment manifesté la foi ». Ou bien l'épreuve va manifester que je n'ai pas vraiment confiance en Dieu. Et là, Dieu, il a l'occasion d'opérer. Là, il a l'occasion d'agir et de nous fortifier. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Si vous demandez à Dieu la patience, si vous dites « Dieu, donnez-moi plus de patience. Je sais que je manque de patience, je m'emporte, je veux tout de suite et tout. Alors, Seigneur, donne-moi la patience. » Alors, faites attention, quand vous demandez quelque chose à Dieu, il va vous répondre. Hein? Il va vous donner ce que vous voulez. Peut-être pas toujours comme vous souhaitez, mais il va vous répondre. Et pour nous donner de la patience, Dieu va se servir des épreuves qu'il envoie, qu'il permet dans notre vie. Pourquoi pouvons et devons-nous regarder les épreuves comme un sujet de joie complète? C'est parce que ces épreuves entrent dans le plan de Dieu et servent à faire grandir notre vie avec Dieu. Servent spécifiquement à faire grandir notre foi et aussi augmenter notre patience. C'est Jacques qui le dit. Et au verset 4, il continue. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement ou complètement, totalement son œuvre. Pourquoi? Afin que vous soyez parfaits, donc pas parfaits dans le sens sans péché, sans faute, non, parfaits, matures, complets, arrivés à un stade de maturité, afin que vous soyez mature, si vous voulez, parfait, si c'est ça votre traduction, et accompli, préparé, sans faillir en rien. Et nous lisons cette description de fin de verset 4. Parfait ou mature, accompli, c'est-à-dire préparé pour tout, sans faillir en rien. Et est-ce que ça me décrit? Même en tant que pasteur, est-ce que moi je peux dire je suis totalement mature, je suis prêt à tout et que je ne manque de rien? Non, moi je ne peux pas dire ça. Je suis convaincu que aucun enfant de Dieu aujourd'hui sur la terre ne peut le dire. Et pourtant, nous pouvons tendre vers cela. Paul lui-même dit, je ne pense pas l'avoir saisi, je ne suis pas encore arrivé, mais je tends vers le but. Je continue. Et Dieu se sert des épreuves qu'il envoie dans notre vie aujourd'hui afin de nous former, afin de nous emmener plus loin sur ce chemin de sanctification, afin de nous rendre matures, de nous faire grandir spirituellement, prêt à tout ce qui arrive dans notre vie sans faillir en rien. C'est-à-dire qu'on ait tous les outils dont nous avons besoin, que nous puissions prendre toute l'armure de Dieu, comme Paul il va dire en Éphésiens chapitre 6. Et donc, les épreuves, et là, nous pouvons parler spécifiquement de cette épreuve du confinement, cette épreuve du temps passé avec ses proches sur une base tous les jours, être à la maison, être entre quatre murs avec des personnes sur plusieurs semaines, comme nous faisons maintenant, ça, c'est sûrement, et je ne veux pas me mettre à votre place, mais c'est sûrement une épreuve. Et de ne pas être libre de ces mouvements totalement, c'est une épreuve. Nous passons par de lourdes épreuves en ce moment. Et notre réaction, notre attitude en tant qu'enfant de Dieu ne doit pas être « Seigneur, sors-moi de ceci le plus vite possible parce que je n'en peux plus. Je ne veux pas de ceci, je veux que ça aille mieux. » Alors, comprenons bien. Il est toujours juste, toujours approprié de prier à ce que Dieu nous sorte de l'épreuve. Mais de considérer que l'épreuve n'a aucun but dans le plan de Dieu, que l'épreuve ne peut rien nous apporter sur le plan spirituel aujourd'hui, est un tort de notre part. Jacques dit « Dieu se sert de l'épreuve ». Dieu se sert de n'importe quelle situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise à nos yeux, afin d'accomplir son plan. Mais lorsque nous réfléchissons à cela, on se dit, mais c'est lourd ça, c'est dur, c'est peut-être même trop dur. Moi, je ne peux pas réfléchir comme ça. Je n'ai pas la sagesse pour cela. Et là, verset 5, regardez, vous l'avez devant les yeux. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. Alors, sagesse pour quoi? Pour toute chose, bien sûr, mais je suis convaincu, vu le contexte, que Jacques est en train de parler de cette sagesse qui nous permet d'identifier les épreuves et d'identifier les situations par lesquelles nous passons comme étant des choses qui nous permettent de grandir spirituellement. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il prie. Parfois, nous pouvons avoir le raisonnement, la pensée, et moi-même, je l'ai eu plus d'une fois, et trop souvent que je voudrais admettre. À quoi bon prier? Est-ce que ça change réellement quelque chose? Et bien sûr, dans notre monde aujourd'hui, les gens disent, mais vous perdez votre temps à prier. Si Dieu existe, vu ce qui se passe dans le monde, soit il n'est pas là, ou il est totalement impuissant pour changer quoi que ce soit. Alors, à quoi bon prier? Ça, c'est le raisonnement du monde. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons nous laisser entraîner à croire ces mêmes choses et oublier des versets comme celui-ci. Ce verset qui dit, si on manque de quelque chose, mais notamment de la sagesse, afin de bien raisonner, afin de bien agir, afin d'avoir une bonne attitude et une bonne réflexion, si nous manquons de sagesse, et nous en manquons souvent, de demander à Dieu, de prier à Dieu. Pourquoi? Encore une fois, pourquoi? Pourquoi? À quoi bon? Parce que Dieu répond. Qu'il la demande à Dieu qui donne à tous. Alors, qu'est-ce que j'aime bien cette petite phrase? Qui donne à tous. Dieu ne répondra pas plus à l'un qu'à l'autre en disant « Ah, je préfère cet enfant-là, mon enfant qui est super spirituel, qui fait ma volonté, qui a toujours la bonne optique, qui est toujours en train de suivre ma parole, qui a toujours une bonne attitude. » Donc, lui, je vais répondre. Je vais lui donner la sagesse qu'il demande. Mais cet enfant-là, mon enfant, oui, il est mon enfant, mais bon, il ne se comporte pas vraiment comme il faut. Du coup, je vais lui priver un peu de ma sagesse pour lui apprendre une leçon. Pour qu'il comprenne bien voilà, que je ne suis pas content, qu'il doit mieux faire. C'est une optique, c'est une vision de Dieu complètement faussée, si on a cette vision que je viens de décrire. Dieu ne nous privera jamais de sa sagesse pour nous apprendre une leçon. Dieu ne nous privera jamais de sa sagesse lorsque nous la demandons. Sa réponse à notre prière ne dépend pas de notre dignité. Ce n'est pas parce que je suis plus ou moins digne aux yeux de Dieu que Dieu va dire « Ah oui, là, tu as bien fait, alors je vais te répondre. » Non, les réponses de Dieu à nos prières ne sont pas des récompenses sur la base de comment nous nous comportons. En aucune manière. Jacques dit avec certitude et avec force, lorsque nous demandons la sagesse de Dieu, Dieu la donne à tous. Je vous pose la question directement. Est-ce que vous demandez la sagesse de Dieu? Il la donnera. Il donne à tous, simplement. Dieu, je suis convaincu qu'il agit beaucoup plus simplement, non pas de façon simpliste, mais beaucoup plus simplement que nous pouvons imaginer. Parfois, pour nous, on va rendre la chose trop complexe. Mais Dieu, lorsqu'il donne, il ne passe pas par 1000 tours. Non, il va droit au but. On demande la sagesse, qu'est-ce qu'il va nous donner? La sagesse. La sagesse dans la situation dans laquelle nous sommes. Il donne à tous simplement et sans reproche. Alors, c'est un peu dommage. On a traduit « sans reproche ». Mais c'est vraiment l'idée librement, sans réserve. Dieu ne va jamais dire « Ah, je te donne une petite part de sagesse parce qu'il faut que j'en garde pour les autres qui en auraient besoin. » Parfois, nous pouvons avoir cette pensée et elle est complètement fausse. Dieu, il a tellement plus de sagesse que nous pourrions imaginer. Tout comme il a tellement de plus de puissance, plus d'amour, toutes ses qualités, il les a en si grande quantité que nous ne pourrions jamais mesurer cela. Du coup, lorsque nous lui demandons la sagesse, Dieu va dire, mais bien sûr, tu es mon enfant, je vais t'en donner et je vais te donner autant que tu demandes et autant tu en as besoin. Et à la fin de verset 5, elle lui sera donnée. Jésus, il avait repris un peu ou utilisé un peu cette image dans les évangiles. Il dit, vous, êtres humains, vous les pères, lorsque votre enfant vient vous demander quelque chose à manger, est-ce que vous allez lui donner de mauvaises choses lorsqu'il vous demande à manger? Mais non, s'il demande un œuf, est-ce que vous allez donner une pierre? Mais non, 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 c'est ridicule. On va donner de bonnes choses, on va donner ce qui est approprié. Et Dieu, qui est tellement meilleur que nous, il va faire exactement pareil. Et il va faire encore mieux. La sagesse de Dieu sera donnée lorsque nous la demandons. Et nous devons nous poser la question, est-ce que j'ai besoin de la sagesse de Dieu en ce moment? Et la réponse est oui. La sagesse de Dieu, moi j'en ai besoin. En tant que pasteur, pour pouvoir gérer cette situation, savoir quelle décision prendre, comment accompagner au mieux les uns les autres, j'ai besoin de la sagesse de Dieu. Et vous, vous avez besoin de la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, si nous nous appuyons sur notre propre raisonnement, nous allons peut-être nous tromper. Nous allons sûrement, si je peux dire, nous tromper. On va être à côté. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Et à ce moment-là, lorsque nous reconnaissons cela, au milieu de l'épreuve que Dieu a permis, dont il se sert pour éprouver notre foi, afin de faire grandir et produire en nous la patience pour nous emmener plus loin dans ce chemin de sanctification, nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour identifier cela et avoir la bonne optique. Et pourtant, vous l'avez peut-être vu, et je tiens à la souligner parce que Jacques le fait, verset 6, « Mais, attention, il y a quand même une condition. Oui, Dieu va donner lorsque nous demandons. Simplement, il va le faire à tous. Il va donner sans réserve. Il ne dira jamais, ah, vous avez demandé de trop. Non. Mais il y a une condition quand même. C'est au verset 6. Mais qu'il la demande avec foi. Et là, on se dit, mais c'est un cercle vicieux. C'est un raisonnement circulaire. Attends, il faut la foi ici, mais après la sagesse et tout. Alors, comprenons ce qui se passe. Nous sommes dans une épreuve. Quelle est notre première pensée? Souvent, c'est « je veux m'en sortir ». Et ce n'est pas toujours une mauvaise pensée, mais c'est peut-être pas toujours celle que nous devons avoir. Mais nous sommes au milieu d'une épreuve physique, relationnelle, morale, spirituelle, financière, tout ce que vous voulez, une épreuve. Et Dieu est en train de se servir de cette épreuve pour éprouver notre foi, pour voir si elle est réellement solide et produire la patience. Et c'est cette foi qui nous permettra de demander la sagesse. Donc finalement, la foi, l'épreuve, la sagesse, le tout est lié. Et nous ne devons pas dissocier les choses. Dire, ah, c'est simplement la sagesse, ou c'est simplement la foi, ou simplement les épreuves, et mettre tout l'accent là-dessus. Non. Il y a tous les éléments. Qui la demande avec foi, sans douter. Pas de doute. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Cette image, les gens de l'époque auraient connu très, très bien. Ils auraient tout de suite compris un bateau, un navire sur l'eau, soit un petit lac ou même l'océan, la mer, est à la merci des vagues, le vent. Surtout à cette époque où tous les bateaux étaient dirigés par le vent. Et si le vent venait de l'est, de la droite, le bateau, il allait dans cette direction. Et si le vent tournait, le bateau allait dans l'autre direction. Et au milieu d'une tempête, et il y a plusieurs cas de cela dans la Bible, qu'est-ce qu'on peut faire dans un bateau dans une tempête? Pas grand-chose. On peut penser à Jonas. On peut penser aussi à Jésus avec ses disciples. Ces personnes expérimentées, autant à l'époque de Jonas, lorsque dans ce bateau, lui et les autres étaient au milieu de cette tempête, ainsi que Jésus avec ses disciples, c'était des hommes expérimentés. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Rien. Et nous voyons ces ballottés à droite, à gauche, à droite, à gauche. On peut penser au ping-pong où la balle passe d'un côté à l'autre. On peut penser aussi au volley. Et ici, Jacques, lui, il dit, quelqu'un qui va douter déjà de la bonté de Dieu, qui va douter de la réponse de Dieu, je demande à Dieu, je ne suis pas convaincu que vraiment il va donner. Jacques dit, verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Jacques, ici, il va s'opposer totalement à une prière, ce qu'on appelle une prière de forme. Tout simplement dire des paroles, mais de ne pas avoir la réalité derrière. De ne pas vraiment croire ce qu'on dit. D'être convaincu de la chose. Jacques va condamner complètement cela. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, le risque, le danger est grand de dire les bonnes choses. Lorsque nous allons mal, lorsque nous sommes dans l'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Ok, très bien. Et peut-être on prie, on élève des paroles à Dieu, mais est-ce que nous sommes réellement convaincus de ce que nous disons? Si nous ne sommes pas totalement convaincus que Dieu répondra comme il veut dans la situation où nous prions, Jacques dit qu'on ne s'attend pas à recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Non pas que Dieu est en train de nous punir en disant « aie plus de foi, aie plus de conviction, et là je te répondrai ». Non mais Dieu n'est pas obligé de répondre. Il répond très souvent, comprenons bien. Mais Dieu n'est pas obligé. Et verset 8, quelqu'un qui dit tout simplement des choses, mais qui n'en est pas convaincu, quelqu'un qui doute, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques dit, ça va se voir dans d'autres domaines de sa vie. Ce n'est pas juste dans la prière, dans sa vie privée avec Dieu. Non, ça se passe dans toute sa vie. Et ça va se voir. Et Jacques, ici, est en train de dire les épreuves qui viennent, finalement, nous poussent à exercer notre foi, nous accordent par cela plus de patience, nous pousse à demander la sagesse de Dieu et d'avoir une conduite qui est selon Dieu. Et ainsi, nous serons solides. Ainsi, nous aurons un bon témoignage. Et ainsi, nous pouvons regarder comme un sujet de joie complète les épreuves qui arrivent. De remercier Dieu en disant, « Dieu, tu as envoyé ceci pour m'aider, pour me faire avancer. Et sans cette épreuve, je n'aurais jamais compris ces choses. Sans ces épreuves, je n'aurais peut-être jamais grandi de telle ou telle façon. » Et j'aime bien un chant, peut-être on va commencer à l'apprendre ici, mais il y a un chant, Merci Seigneur pour les épreuves que tu envoies. Pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, ça semble absurde. Ça semble tellement illogique, irraisonnable. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que Dieu nous le montre dans sa parole, et parce que Dieu est tellement grand, nous voyons que les épreuves, les choses difficiles, alors ça peut être dans la relation entre mari et femme en ce moment, ça peut être dans les relations entre parents et enfants, ça peut être nous avec notre solitude, ça peut être dans notre attitude envers nos autorités, ça peut être dans n'importe quel domaine, nous éprouvons, nous sommes éprouvés et nous allons mal. Et notre seule pensée, c'est que Dieu, je n'en peux plus, je veux en sortir. Et encore une fois, ce n'est pas forcément mauvais en soi de prier ça. Mais si nous ne sommes pas capables de voir Dieu à l'œuvre dans l'épreuve dans laquelle nous sommes, nous passons à côté de quelque chose. Parce que Dieu est à l'œuvre. Et Dieu nous appelle en tant que ses enfants de regarder comme un sujet de joie complète toutes les épreuves par lesquelles nous pouvons passer. Les épreuves auxquelles nous sommes exposés. On les subit quelque part, comme en ce moment. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu est absent, que Dieu a perdu le contrôle, que Dieu a laissé échapper en quelque sorte la chose. Non, pas du tout. Et aujourd'hui, en tant que ses enfants, si nous avons accepté Christ comme notre sauveur personnel, nous avons l'extraordinaire privilège de grandir en Christ plus que jamais et puis de pouvoir apporter cette confiance, cette patience et de le manifester autour de nous, là où nous sommes. Pour que le monde voit en nous pas des illuminés crédules qui croient tout simplement à des fables qu'on raconterait, mais des personnes entièrement convaincues de la bonté, de la sagesse, de la toute-puissance et de l'amour de Dieu dans toute situation. Et ça, nous pouvons le faire aujourd'hui, dans nos paroles, dans nos interactions. Alors, est-ce que nous voulons plus de patience? Et je pense que oui, ça passe par des épreuves. Mais nous pouvons dire merci Seigneur parce que tu es en train d'accomplir ton plan. Et ne soyons pas comme ceux qui doutent, nous ne doutons pas. Non, nous avons confiance dans le Seigneur. Et comme Jacques dit ici, qu'il demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement. Alors, c'est ce que nous allons faire pour conclure. Moi, je vais prier, demander à la fois cette sagesse de Dieu, son aide pour ces choses, en étant convaincu que Dieu répondra. Vous, de votre côté, là où vous êtes, vous pouvez prier en même temps, mais je vais prier pour demander l'aide de Dieu et sa sagesse en ces moments. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi. Rien n'est caché à tes yeux. Tu vois notre cœur, tu vois tout notre être. C'est toi qui nous as créés. Tu vois nos manquements, tu vois ce dont nous avons besoin. Et Seigneur, nous reconnaissons notre manque de sagesse pour bien saisir ce que tu es en train de faire et ainsi regarder comme un sujet de joie complète les épreuves par lesquelles nous passons. Et Seigneur, sur la base de ta parole, nous demandons cette sagesse avec confiance, avec une foi complète, entière en toi, en sachant que tu la donneras, Seigneur. Nous demandons simplement et nous savons que tu le feras, Seigneur. Tu l'as promis. Tu es le Dieu qui ne ment pas, qui ne trompe pas. Et Seigneur, nous te remettons ces instants, que tu nous aides à rappeler ces choses, que tu nous aides à travers la semaine à venir. Tu vois ces jours devant nous, tu vois ce que tu as préparé, tu vois ce à quoi nous serons confrontés. Et nous te demandons à l'avance de nous aider d'avoir la patience, la foi, la sagesse nécessaire en toutes choses, et ainsi que nous soyons des lumières brillantes dans ce monde de ténèbres et que tu sois ainsi glorifié et exalté. C'est en ton nom que nous prions. Amen.